sur Canal Sud 92.2, c'est Jazz to Jazz.
Escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, fourmilières en mosaïque, labyrinthe fantastique, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent, et le métro qui flânait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Paris. Des midinettes qui trottinent, des ouvriers qui cheminent, des dactylos qui se pressent, des militaires qui s'empressent, des employés qui piétinent, des amoureux qui butinent, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui planait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de des escaliers mécaniques, portillons automatiques, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs monotones, basiliques fantastiques, dans le beau jour électrique, le métro de Paris, gigantesque ver luisant, sur les toits de Paris, à tisser de fils d'argent. Et doucement, il s'étire sur les toits de Paris, et glisse, 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 glisse.
Et voilà, donc alors, on vous a laissé un petit peu deviner le thème de cette émission. De
ah ce c'est pas le métro.
Non, c'est pas le métro, c'est pas Edith Piaf, c'est pas notre ah émission mais, quota oui. Chanson française. Mais
il y en aura quand même.
Il y en aura quand même. Et non, mais c'est sur Paris, voilà, parce que...
Pourquoi d'ailleurs?
Bah parce que c'est la ville des amoureux, il paraît. Et qu'on n'a pas, osé faire la Saint-Valentin.
Ah, non,
attends, on l'a fait hein, déjà la Saint-Valentin. Non, on l'a déjà fait.
Non, jamais. Non, tu mais jamais, mais enfin, c'est pas
non,
notre
c'est
truc.
Pas... Ah non, c'est pas nous, ça c'est franchement... Attends. Non, mais ça m'a fait penser à tellement, on devrait inventer la fête des 10 ans de Canal Sud, tu vois.
Hein, la fête?
Des 10 ans de Canal Sud, par exemple. Non, mais comme ça, n'importe quoi. C'est-à-dire, non, mais en France, hein, attention, la journée de Canal Sud.
Oui, d'accord.
Oui, c'est assez aussi ridicule que tout le reste.
Non, c'est moins ridicule que
c'est
tout
moins,
le reste.
Oui, bien sûr.
C'est moins ridicule.
Je m'y attendais.
C'est moins ridicule que la journée des grands-mères, des secrétaires
voilà.
ou des femmes.
Ça existe, des secrétaires? Non.
Bien sûr, ça existe. Tout existe maintenant.
La journée des secrétaires.
Oui, voilà. Bon, c'est en général, le patron offre...
T'as pas inventé, là?
Ah non.
Oui. Ah, ça existe. Hein.
Mais c'est ridicule, bien entendu.
Bon, alors la journée des paysages sonores, c'est quand? Maintenant.
Quand tu veux, parce qu'on a beaucoup de temps.
Oui, voilà. Bon, allez, alors on va tourner et on va tergiverser, on va dire un peu n'importe quoi, mais autour de Paris... Évidemment, ce thème, quand même, si on cherche, ben, évidemment, là, on trouve. Hein. Par contre, alors là, alors évidemment, ça a beaucoup influencé.
C'est moins évident qu'on le pense. Quand même,
oui, c'est vrai. C'est vrai quand même.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux de jazz qui ont Paris dans le titre. Il y a beaucoup de concerts qui se sont passés à Paris, mais après, bon, c'est quand même moins évident... de pas tomber dans le truc. Alors bien entendu, il y a énormément de chansons autour de Paris, hein, mais on tenait pas à faire ça.
Ah non, mais de toute façon, je sais pas si j'en ai amené une de chansons. Par contre, c'est vrai, par exemple, là, j'ai dû me restreindre autour de jazz, musique improvisée, et j'ai pas été chercher pour une fois dans musique contemporaine. Heureusement, je crois que tu as de la musique électroacoustique.
Oui, mais pas contemporaine.
Mais pas vraiment contemporaine sur Paris.
Bon, enfin,
parce que les contemporains, à mon avis, rien que le titre, ça serait trop fort de mettre le mot Paris sur...
Oui.
Il faut que ce soit un peu plus ésotérique, quand même. Il faut que ce soit contemporain, quand même. Faut pas
oui, il y aurait Lutèce, peut-être.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Quelque chose comme ça.
Oui. Enfin, non, mais, enfin, voilà. C'est en même temps, je me suis demandé bon, pourquoi Paris. Et puis finalement, bon, c'est un endroit où je vais relativement peu.
Très peu, moi.
Très peu, moi aussi. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, ah, j'aurais mieux fait de vivre ici. Mais en même temps, je n'y ai jamais vécu, donc je trouve que ça va très bien comme ça. Et puis j'y retournerai peut-être dans assez longtemps. Et ce que je trouve le plus intéressant dans Paris, finalement, c'est l'ambiance, et puis c'est de marcher dans les rues. Après, les spectacles, tout ça, je m'en fous, parce que finalement...
Et puis, il y en a trop.
J'y vais pas plus ici qu'ailleurs.
Ouais,
quoi, donc
c'est pas
mon problème numéro un. Et quant aux expos où il faut faire la queue pendant des heures, ça me va pas non plus, donc... voilà. Mais sinon, c'est vraiment de pouvoir se balader dans un truc qui est quasiment infini, quoi.
Et ça, c'est vraiment... Oui, c'est ça. En gros,
et ça,
regarde.
C'est vraiment beau.
Et, enfin, moi, j'ai vécu une vingtaine d'années hein, par là-bas, en haut, hein, et puis je suis venu à Toulouse, et c'est clair que la différence, on l'a toujours expliqué en une phrase, à Paris, tu vas voir ce que tu veux, alors qu'à Toulouse, tu vas voir ce qui passe. Bon,
oui.
Voilà. Ça, c'est sur le plan un peu culturel. Hein.
Sauf que les Parisiens, en général, vont voir ce qu'ils peuvent.
Oui, oui, non, mais attends, c'est très relatif.
Donc,
et comme tout raccourci,
très...
c'est pas très, très bon.
Non, moi, je dis simplement que, bon, à Toulouse, la marche est limitée. À Paris, elle l'est moins, voilà. Alors, à condition, effectivement, d'habiter dans Paris, ce qui est quand même pas tout à fait dans nos...
Non, voilà, c'est ça. Quand je disais que j'ai vécu à Paris, moi, je parlais du Nord et dans la banlieue.
Voilà la chanson à laquelle on ne pouvait pas échapper, donc on n'y échappe pas. Je ne dis pas le titre, mais...
oui, d'accord, j'ai compris, déjà.
La version est assez décoiffante.
Rocambolesque.
Étrange.
Étrange.
Je ne savais pas que ça existait. J'ai découvert...
Ah bah c'est exactement ce que j'espérais. Alors,
j'ai découvert un groupe que je ne connaissais pas et que je vais essayer de voir ce que ça donne.
Bon, allons-y. Voilà, vous êtes sur Jazz to Jazz dans Canal Sud, et franchement, c'est un bonheur que cette radio existe. Alors, c'était qui ?
C'est les Cris de Paris, c'est un groupe qui s'appelle les Cris de Paris, alors je ne sais pas si ça existe encore, hein. Et c'est François Jourdain qui dirige ça.
Et là, il continue à la flûte ?
Non, c'est-à-dire que bon,
non, ça s'arrête
j'ai
plus.
Peut-être pas mis exactement ce qu'il fallait, bon, mais c'est pas grave.
Et donc, on a évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, la reprise du thème fantastique et de la chanson de Dutronc.
Oui,
Paris s'éveille.
Paris s'éveille. Texte de Lanzmann, voilà. Ouais. Et Paris s'éveille, il est 5h, Paris s'éveille, dans une version quand même qui est quand même pas si mal que ça, parce que les ouvriers déprimés dans ce concert, ça a fait quelque chose. Oui.
Tu sais que j'ai connu...
On en a des frissons.
J'ai connu entre le flûtiste qui fait la pige là, à un moment donné, enfin ça s'appelle pas une pige, qui fait justement le set en tant que musicien de studio, il a dû être payé 150 francs. À la flûte, tu vois, ou alors c'est... Oui, d'ailleurs, on entend la flûte, c'est pour ça que...
Pourquoi est-ce qu'on entend de la musique
Oui, peut-être qu'il y en a dans la...
Non, dans la salle, peut-être, parce que c'est le ciné-club.
C'est
et donc,
le ciné-club, c'est peut-être
voilà,
ça.
J'ai pas fermé les portes.
Ou alors, c'était aussi l'été indien de... Comment s'appelait-il ce grand
Gazoul.
Chanteur... Non, ce grand chanteur français.
Jodassin. Oui, Gazoul,
j'avais aussi je connaissais le flûtiste ou le saxophoniste. Ils ont été payés à la séance de studio 150 francs. Et il y a eu 1 million, 2 millions, 3 millions, je ne sais plus.
Et après, ils touchent rien.
C'est fini, ils ont été payés 150 francs de l'heure. Alors que le disque a fait un succès, mais phénoménal. Les deux, là. Voilà, j'avais discuté avec lui, c'est marrant, parce que c'est des saxophonistes, tu vois, qui jouaient un peu Soft Machine à l'époque. Et voilà, bon, mais ils ont été payés... Ben voilà, juste le temps de faire. Alors, Paris, effectivement, c'était quand même ce Paris s'éveille. Et moi, j'ai un coffret absolument incroyable sous les yeux, parce que j'ai récupéré ça de mes parents. Ça s'appelle le Jazz de Paris. Et ça va de 1937 à 1960. Alors, c'est Pathé Marconi, et c'est déjà des reprises de 78 tours.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est déjà ça. Plus là, Allez, on va le laisser presque en quiz. C'est un musicien qui est né à Paris et qui est mort à Paris. Et là, si vous le reconnaissez dans le premier morceau, ça par contre on peut dire c'est Tifortou, parce que ça c'est pas très grave.
Ah oui, ouais.
Oui, ça c'est pas très grave, mais non, parce qu'il est parisien de A à Z. Hein, c'est le Jazz de Paris, en plus le coffret de chez Pathé Marconi. Si tu le reconnais, tu es très très fort.
Mais qu'est-ce qu'il faut reconnaître ?
Bah, tu vas voir, le musicien. Alors on laissera le deuxième morceau. Et là, il joue avec Henri Crolla à la guitare. Et là, par contre, tu ne peux pas le rater. Et tu vas être étonné.
Alors, il joue le même instrument dans les deux ?
Et non.
Ah, mais...
Et alors, il ne joue pas son instrument dans le premier, mais c'est assez étonnant quand même. Allez, on écoute Monsieur X dans le premier morceau au piano. Vous allez l'écouter, c'est fort agréable. Et ensuite, on l'écoutera dans son instrument de prédilection, qu'on reconnaîtra très facilement.
On va écouter le craquement entre les deux plages aussi.
Ah, ça c'est fabuleux. Oh, ça, oui, c'est du vrai vinyle, et c'est du vinyle 78 tours. Hein.
Oui.
Donc le premier morceau était enregistré en 1947 et le second en 1954.
Donc Stéphane Grappelli sait jouer du piano.
Oui, voilà, exactement. Mais enfin, assez, de manière assez étonnante quand même, parce qu'avec une maîtrise étonnante, et même si tu écoutes le violon, n'est pas aussi sûr que justement 10 ans après. Et donc là, il était en compagnie de Henri Crolla à la guitare, Emmanuel Soudieu à la basse et Baptiste Reyes à la batterie. Et c'est un triple album qui s'appelait, c'est un coffret, on appelle ça un coffret de vinyle qui s'appelle le Jazz de Paris, et on y retrouve alors, mais très rapidement, les grands noms que sont Alix Combel, Maxime Sori, Django Reinhardt,
Claude Luther,
Hubert Rostin.
Et Louis Armstrong,
voilà.
Non, c'est des Français.
C'est le jazz de Paris, voilà, c'est les plus grands, Rick Rolla à la guitare. Et on écoutera, si on a le temps tout à l'heure, vraiment, c'est Michel Warlop, qui était aussi un musicien violoniste. Il a vraiment occulté un peu trop, je trouve, vraiment, Stéphane Grappelli, c'est dommage. C'est toujours ces façons là de se focaliser sur une personne, c'est assez étonnant, ouais, comme ça. Alors que quand tu vas écouter...
Mais c'est-à-dire, il n'y a pas la place pour tout le monde, hein.
Non, il n'y a pas la place, c'est assez étonnant. Et là, j'ai un septuor donc à cordes, Tempête sur les cordes de Michel Warlop, et moi, je trouve que ça vaut vraiment l'écoute, surtout le nombre de fois qu'on passe ce genre de musique. 2 minutes 24, je crois qu'il faudra qu'on essaye de le trouver avant la fin de l'émission. Alors, allons-y.
Oui,
Est beaucoup plus moderne maintenant, peut-être.
Oui, plus moderne. Alors, je viens de me rendre compte, bien entendu, j'oublie systématiquement les trucs, donc...
J'ai oublié
le disque de Frank Vigroux, qui est quand même le mec le plus important que j'avais amené ce soir, qui est dans le label D'autres Cordes.
Et oui.
Alors, j'engage les gens à aller écouter cette musique. En plus, l'article avait été fait par... Alors, le disque s'appelle Oui, nous autres, oui. W.E. Frank Vigroux, et donc il y avait un truc. L'article était écrit par Max Lachaud, qui fait l'émission Douche Fraîche sur Canal Sud. Et donc j'étais parti pour faire un peu de la promo de tout. Et puis bon, malheureusement, j'ai oublié ce morceau. Et c'était surtout un morceau qui m'intéressait.
Alors quel rapport avec Paris alors?
Ben, ça s'appelle Death in Paris.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc c'était
mort,
intéressant
alors,
parce que.
D'abord,
Oui. Tout d'un coup, je me suis rappelé, mais Death in Paris, ça me rappelle quelque chose. Alors il y a Death in Vegas, hein, le groupe de rock. Mais surtout, ça me rappelait quelque chose. C'était un cocktail. Un cocktail qui s'appelle Death in Paris, tout simplement. Et c'est un tiers de whisky, un tiers de gin et un tiers de pastis. Et c'est là,
ça
se gâte, parce que c'est vraiment l'élément marseillais qui est le pire dans le tiers. Et bon, voilà, ce Death in Paris, on va pas l'écouter parce que je l'ai oublié. Mais j'engage tout le monde à entendre, c'est quelque chose de très brutiste. Hein. De toute façon, on reconnaissait Paris de très loin.
Hein. Non, mais on peut l'entendre un peu quelque part, tu penses, sur Internet ou pas? Ça doit être difficile, quoi.
C'est quand même beaucoup plus compliqué. Chez moi, oui. Si les gens m'écrivent, écrivent à l'émission...
Oui, le cocktail.
Je leur renvoie Death in Paris sans problème. C'est dit, c'est juré, craché,
voilà,
ou craché, juré, comme vous voulez, dans n'importe quel sens. J'envoie le Death in Paris sur un simple mail.
Alors, pastis, rappelle-moi, gin et puis
Un tiers whisky, un tiers gin.
Et un tiers pastis,
bon, c'est le pastis, c'est vraiment pour achever. Quoi,
ouais,
reste paraissait un peu normal. Mais
ça
après,
fait très mal. Hein, voilà. Vendredi soir, vous pouvez. Bon,
mais c'est, tout ça, c'est des graines. Hein, donc, peut-être que ça se marie très bien ensemble. J'ai
vu le titre, franchement, je crois que c'est assez évocateur.
À mon avis, au bout de deux, là, on peut aller secouer.
Ça dépend des doses, mais
un. Voilà. Alors, donc, comme je devais passer quand même de la musique un peu électroacoustique, et je me suis retourné donc vers Agostino Di Scipio, qui est un compositeur italien. Et c'est un disque qui est paru dans le label Crisiope, je crois, le label de l'immeuble, donc de Bourges.
Ouais.
C'est quelqu'un qui a dû participer au concours.
Ça
s'appelle Robotique des Lumières, et les titres sont Paris, Robotique des Lumières 1, Robotique des Lumières 2.
Ouais.
Et on va écouter le Robotique des Lumières 1. Et intéressant comme pièce. En tout cas, c'est pas si évident que ça, mais c'est quand même entre le paysage sonore avec quelques petits agréments de...
Il y a quelque chose d'étonnant dans la musique électroacoustique, c'est rarement raté, je comprends pas. Tu crois qu'on a des pièces, on pourrait faire une émission sur les pièces ratées d'électroacoustique, mais l'oreille est toujours un petit peu...
Il y a des trucs qui sont un peu pénibles parce que ça dure trop longtemps.
Un peu pénible, trop longtemps. Voilà. Mais
je sais pas trop. Non, en fait, c'est vrai que c'est difficile. Alors, bon, bien sûr, nous, on est bon public. Hein,
ah oui, alors on peut le dire, oui.
Par rapport à ces musiques, bon, je pense que de temps en temps, on a une oreille un peu perverse. Perverse, j'oserais dire.
Voire naïve.
Oui, voire. Je dis bon public. Quoi,
oui, c'est ça, oui.
On n'a pas trop. C'est parti, oui. C'est parti.
Alors, un peu d'électroacoustique et puis...
Voilà, donc Augusto Discipio, vraiment, enfin, en tout cas, à suivre ce qu'il a fait plus tard. C'est un disque de 2000, un truc comme ça. Juste avant que, d'ailleurs, l'immeuble ferme.
Oui.
C'est beau. Ah, c'est beau, mais...
L'immeuble ferme,
il me semble
oui,
que c'est pas... Beau. Non, l'immeuble ferme, que l'immeuble c'est ferme, c'est plutôt embêtant.
Très joli, oui. Bon, écoutez, j'ai trouvé le titre de l'émission, on est amoureux des ondes.
Oui.
Voilà, du vibratoire, de l'énergie ondulatoire. Voilà, c'est ça. En fait,
c'est beau, ça, quand même, hein.
C'est, oui, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire.
La robotique.
Sauf peut-être pour les auditeurs de rappeler le compositeur, parce qu'il n'est pas cité.
Agosto Di Scipio. Et c'est la robotique. C'est la robotique des lumières. Un des disques immeubles, alors je ne sais plus combien. Voilà. Donc on peut retrouver peut-être, mais je ne sais pas où on les achète, ces disques maintenant. Parce que,
oui.
Peut-être que c'est encore distribué par Metamkin.
Peut-être. Voilà. Oui, voilà. Et oui. Alors après, musique électroacoustique, un petit peu de musique dite improvisée, musique européenne. Et alors là, j'ai le Paris Quartet, hein, tout simplement,
avec ce
collector, parce que j'en ai pas connu beaucoup. C'est des Intact, mais vinyle. Je sais pas si tu en as, des Intact vinyle. Tu as eu un Greg Schweitzer, non?
Le festival Canaille.
Canaille, ah oui.
Le festival de musique improvisée de femmes.
De femmes.
Woman
Imposing. Oui, oui.
Ouais. Et puis un Louis Molo, Iris Schweitzer.
Ah,
qui
c'est
est
toi
aussi...
qui l'as.
Mais comment c'est moi qui l'ai?
Ah oui, mais donc...
c'est pas le tien.
Non, mais tu as Free Mandela alors, dessus. Ouais.
Je sais pas, il y a Free Mandela.
Et oui, normalement, parce que...
Alors j'ai ce disque.
Oui, oui. Ok, en vinyle, donc de Intact. Alors ça, c'est le Intact numéro 12, hein, quand même, quoi, tu vois, oui. 1989. Et le Paris Quartet, qu'est-ce que c'était? C'était Joël Léandre à la basse, Yves Robert au trombone, Denis Clazereau à l'alto et Irene Schweitzer au piano. Donc vraiment des compères qu'on connaît assez bien.
Oui.
Mais
c'est les célébrités de l'Intact.
C'est les célébrités, complètement. Et alors, comme l'album a été enregistré et masterisé par Daniel Dehay, qui est aussi une grande figure de l'époque...
C'est lui qui a enregistré tous les disques NATO.
Tout.
Et puis qui est quand même un sacré ingénieur du son.
Absolument.
Qui a des paysages sonores assez flamboyants.
Voilà. Et là, ça a été enregistré le 26 avril 1985 au Théâtre Dunois. Alors, Dunois, ça aussi, c'est un endroit... j'ai été... Oui. Dans cette époque-là, si vous y étiez, c'était un endroit mythique de la scène improvisée.
Et j'ai failli amener aussi un concert de Arzoid au Golfe de Rouault.
Ah ben voilà, c'est des lieux mythiques de Paris.
Oui, plus,
absolument. Et donc là, c'est enregistré par Radio France, et donc j'ai exprès pris un des titres qui représentait encore Paris, parce que c'est les Dunoiseries du Chinois, donc c'est des petits jeux de mots et des petits jeux même de lettres avec le chinois. Alors sûrement il y a un petit restaurant chinois à côté de la rue du théâtre Dunois, et ça donne les Dunoiseries du Chinois par le Paris Quartet.
Vous avez chaud?
J'ai très chaud.
Chaud. Alors, il me dit, mais je vais du vin. Restaurant chinois. Alors, Chinois, le repas était tout à fait convenable, il était d'une grandeur. Chinois.
oui, ça peut finir là, parce que c'est sorte de presque concert, donc d'unoiserie du chinois. Si vous aimez cette spontanéité, c'est Joël Léandre à la basse et à la voix qui improvise complètement le moment crucial au restaurant Viet ou chinois, où on change, on se donne où soit les numéros, soit on choisit un peu au hasard. Yves Robert au trombone, Denis Clasereau à l'alto et Irène Schatzer qui utilise beaucoup la table d'harmonie là. Et il y a un tout petit peu de piano à la fin. Mais voilà, donc ça c'est des compères de longue date. Et puis voilà, je pense qu'on aura un petit peu une surprise un jour d'avoir Denis Clasereau en invité là, à cette émission.
Bien, il voilà. Habite à Toulouse
Presque.
Presque, d'accord. Ouais. Alors, bon, et moi j'ai cherché alors, parce que de temps en temps il faut aussi faire un peu...
Des fouilles.
Des fouilles, oui. Et puis je me suis posé la question de quelques films vraiment emblématiques de Paris. Et bon, on avait passé À bout de souffle dans une autre émission,
oui, carrément.
Qui était sur À bout de souffle d'ailleurs.
Totalement sur À bout
et,
de souffle.
Et donc là, ben, j'ai trouvé un Ascenseur pour l'échafaud, qui est quand même la musique emblématique d'un film des années, des années 50, c'est en 58 je crois, un film de Louis Malle, avec Jeanne Moreau. Et j'ai oublié le nom de l'acteur, mais enfin c'est pas très grave. Et donc j'ai trouvé une compilation qui s'appelle Jazz in Paris Remix, alors qui est en gros un travail sur les Jazz in Paris, qui sont une grande collection de disques qui ont...
Mais par qui, tu sais par qui ?
Quoi ?
C'est remixé par qui ?
Ah si, je sais par qui c'est remixé. Non, mais je veux dire, Jazz in Paris, c'est surtout une série de disques qui va des années, des années quasiment 30 à 60. D'ailleurs, ce que tu as amené, c'est un peu l'idée. Hein. C'est toujours tout un tas de musiciens qui se sont installés à Paris, parce que Paris était un endroit où on pouvait écouter du jazz à cette époque-là. Et bon, dans des conditions, d'ailleurs, les musiciens américains venaient plutôt à Paris, parce que c'était là où on était le mieux payé, et puis surtout, on y était tranquille par rapport à... Oui.
Je pense que l'acteur que tu as oublié, c'est Maurice Ronet.
Ah bah oui, alors en plus, c'est une honte.
Et il y a Lino Ventura aussi. Hein.
Oui, il doit jouer le flic.
Oui, le commandant, c'est ça.
Ça doit être toujours...
Et la bande originale, bien sûr, est de Miles Davis.
Alors, voilà, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce film donc, de Louis Malle, c'est surtout que, bon, en fait, la musique du film est faite en deux jours. En deux jours, et ce qui est intéressant, c'est ça.
300 francs par
musicien. On peut même dire, oui, mais enfin, je sais pas si c'est un film qui a beaucoup rapporté. Hein, comme, à force, ça peut rapporter toujours de l'argent, puisque ça devient un film mythique.
Mais on sait pas.
Mais donc, c'est je vais vous dire, ça a eu lieu du 4 au 5 décembre 1958, donc c'est peut-être qu'une nuit d'ailleurs. Ouais, parce que c'est
première prise à chaud, et puis paf.
Et donc, il y avait Barney Willem, René Hürtreger, Pierre Michelot. Et Kenny Clark, Jean-François Kenny Clark, donc, et non pas
du grand monde là,
et donc bien sûr Miles Davis.
Il n'y a pas eu Martial Solal dans l'histoire.
Non, ça c'est dans À bout de souffle.
C'est ça.
Donc c'est l'autre.
C'est donc René Hürtreger.
Alors, donc ça se fait dans une arrière-salle de bar, disons que bon, Miles Davis, lui, est détendu. Les autres ne comprennent pas pourquoi, parce que ça ressemble un peu à un piège. Et puis, Louis Malle explique aux musiciens que la musique devait être en net contrepoint de l'image. Et surtout, il les encourageait à ne jamais chercher à travers leur jeu à traduire ou refléter directement ce qui se passait.
D'accord.
Donc, ils ont des extraits de 20 à 30 secondes de films. Et ils font des petites séquences sur ces 20 à 30 secondes. Ils improvisent totalement sur ces séquences-là. Et ça donne, ça donne ce qu'on connaît de cette musique. Et donc, voilà, ça fait à peu près, ils ont travaillé 3 heures, ce qui n'est pas énorme, en fait. Hein, 3 heures à enregistrer une cinquantaine de petites séquences. Et puis, ça donnera après avec des remontages, des remixages et tout ça. Mais effectivement, si on se rappelle bien...
Et c'est édité sur un CD, ça ?
Non, à une époque, il y avait un disque, un 17 cm, un 17 cm de Fontana, alors il faut se rappeler de cette époque, disque qui pèse assez lourd, tout ça, et donc il y a un 17 cm Fontana où il y avait alors il n'y avait pas les 50, il y avait une vingtaine de petits extraits, puisque, si on se souvient bien du film, et ça vaut le coup d'aller le revoir, peut-être que pour la musique à un moment aussi, c'est qu'on se rend bien compte que les séquences musicales sont très très courtes. Elles font pas plus de 30 secondes en général. Et puis après, c'est reposé avec des bruits de rue, enfin tout ça, et puis ça repart comme ça. Et la légende dit qu'effectivement, Miles Davis avait une petite peau de ses lèvres qui flottait, ce qui donne son son si merveilleux à la trompette. Bon, enfin bon, ça c'est la légende, je m'en fous. je n'ai pas vu tout ça. Mais par contre, je vous raconte, oui. Voilà, et donc, bon, c'était intéressant. Et alors là, on est sur un disque qui a été fait en 2006, par là, ou un truc comme ça. Et c'est un remix de tous.
Ah, c'est un remix.
C'est un remix de tous ces morceaux. Alors bien entendu, ça sera un peu plus techno. Enfin, techno, enfin, disons que, comment on appelle ça, enfin, je perds un peu les trucs avec
un peu
des boîtes à rythme, tout ça.
Ouais.
Et c'est Nicolas Repas qui remixe ce truc. Et Nicolas Repas, qui est un guitariste de jazz, quand même, qui fait aussi de la variété, tout ça, mais que c'est assez solide, enfin, comme musicien. Et voilà. Et donc, ce remix est assez touchant, d'ailleurs, parce qu'il y a toute une sorte d'ambiance du film. Et bien, on va écouter ça.
Ah ben.
Donc, Ascenseur pour l'échafaud, donc la musique est de Miles Davis avec Barney William, Hurtreger,
Michelot
et Kenny Clarke. Et puis Miles Davis, bien sûr, à la trompette. On va entendre encore ce son assez admirable qu'il y a dans ce film. Un excellent film, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais depuis Louis Armstrong, je pense que bon, il y a eu Miles Davis et Chet Baker, et puis après c'est les autres. Quoi. Non, mais pour les sons.
Tu parles pour la trompette.
Oui,
quoi.
Pour la trompette. Oui, non, je parle
et Dizzy Gillespie, tu le mets pas dedans.
Oui, mais bon.
Bon, d'accord, allez.
Allez, on va le mettre. Oui, mais c'était lui. Il n'avait pas de technique. Il avait des.
C'était
une grenouille.
Il pouvait gonfler comme.
Oui, c'était pas un vrai.
D'accord. Bon, on écoute Ascenseur pour l'échafaud. Ça vaut le déplacement quand même. Et soyez attentifs, c'est très beau.
Non, voilà, il faut dire que là, on
le remix de Nicolas Repas.
Ouais. Repas. Et mais il faut dire que là, on est entouré de musiciens de très haut niveau.
Hurtrigger, hein, quand même.
Hurtrigger, René Hurtrigger. Rien qu'un album solo de René Hurtrigger, déjà, vous pouvez l'écouter sans problème. Hein, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, tout le reste.
Alors, ce qui est intéressant dans le remix, c'est qu'effectivement, on a une évocation de ce que deviendra Miles Davis, c'est-à-dire le type qui peut faire deux notes et ça suffit pour faire un morceau, quoi.
Bon, en fait, dans la musique, il y a eu Jean-Sébastien Bach et Miles Davis.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je cherche.
Non, mais voilà, chose de relativement simple, mais qui fonctionne, quoi.
Oui, ça fonctionne.
Enfin, bon, peut-être que Bach était plus dans la note, Miles Davis plus dans l'économie.
Non, mais bien sûr, il y en a sûrement un troisième, quand même.
En cherchant bien. Pour pas vexer quelqu'un.
C'est ça, oui, ils vont se retourner tous. Donc, allez, I Love Paris, allez, si c'était notre dernier, finalement, notre dernier...
Ah non, moi je tiens à passer Moondog.
Ah, tu veux passer Moondog derrière.
Alors, bon, je peux l'enchaîner, puisqu'on est à deux doigts de la fin.
Alors, écoute, on va enchaîner I Love Paris, qui est un thème, évidemment, de Chris Porter, de Cole Porter, évidemment, de Cole Porter. C'est un autre, là. De Cole Porter, mais je croyais qu'il était dedans, et non, absolument pas, parce que là, c'est un album, on va pas arrêter de dire qu'on a que des collecteurs, mais enfin, c'est l'album In Transition de Cécile Taylor, qui réédité, je vous le dis,
en CD. En deux vinyles.
Mais en deux vinyles, In Transition, sur l'autre face, il y a le
premier... C'est là où il porte un bonnet, quoi.
C'est là où il porte le bonnet, et c'est, là où Steve Lacy fait ses premiers pas d'enregistrement, ouais. Hein, avec le grand Cecil Taylor au piano, Buell Neldinger à la basse, Dennis Charles à la batterie, qu'on a connu dans les locaux de Canal Sud. Là, on est face 4, hein, de ce double donc vinyle, et là, il est avec Ted Curson à la trompette, on verra, de Bill Barron au ténor, Chris White, c'est pour ça que je confondais, à la basse, et Rudy Collins à la batterie, et donc ils vont nous interpréter ce I Love Paris, et donc c'est là où Cecil Taylor, il bifurque, il passe sur l'autre rive, sur le vrai Cecil Taylor. Il y en a un troisième, finalement, de musicien. Oui, c'est Cecil Taylor.
Moondog est peut-être beaucoup moins important, quand même. Peut-être qu'il est plus connu que Cecil Taylor. Hein.
J'en suis
presque sûr.
Au niveau de notoriété, là, c'est autre chose.
Et donc, c'est un morceau qui s'appelle Paris, Moondog, c'est tiré du célèbre disque qui s'appelle Sax Pax for a Sax, qui est vraiment un petit bijou de composition en tout genre. C'est un Atlantic Record de 1994 et c'est le London Saxoniste qui interprète tout ça. Ça, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est très différent de Cecil Taylor.
Mais on
est dans la chanson française quasiment, c'est merveilleux.
Bon, alors juste.
Donc Cecil Taylor, et puis
Moondog, et pour dire, il nous en reste tellement que sur Paris, il faut dire qu'il y a eu des labels.
Je râle que Franck Vigrou ne soit pas à Paris, donc on le refera.
On pourrait peut-être faire, parce que là j'ai quand même un April in Paris par Errol Garner, là, le quatrième musicien de l'histoire du temps. Bon, et donc non, mais il y a tellement.
J'avais
de choses.
Wet in Paris, c'est donc Mouillé à Paris de Eric Truffaz.
Ah, encore un trompettiste, tu vois. Ah oui, on aurait pu faire un Paris et trompette, tout simplement.
Oh, bah
ça doit être faisable. Allons-y, oui, parce que notre ami Maurice André, non, c'est pas Paris.
Peut-être Forcé. Qu'il y a un truc.
Ah oui, à Notre-Dame, allez, on doit pouvoir trouver Maurice André.
Nous ne nous moquons pas de Maurice André.
On ne se moque pas, nous, c'est le cinquième musicien qui a fait l'histoire.
Cécile Taylor et puis Moondog.
Voilà.
Thank you.
Bon, alors, c'est quand même Moondog.
C'est monumental. Et on est obligé de
c'est
rajouter
tout petit dans Paris, les musiciens Paris, de Paris, mon petit chéri.
Non, mais ça, c'est très, très revu, quoi. La revue, c'est, on est à Paris, là. Alors, entre Piaf.
En tout cas, c'est enfin, pour ceux qui ne connaissent pas ce disque, quoi.
Non,
c'est vraiment un disque, un disque excellent. Hein. Sax Pax. For a Sax.
Oui, il fallait le redire à mon avis, celui-là.
Et vraiment, y a des morceaux très connus, dont Burst Lamande, qui est l'un des plus connus, qui a été repris par Mr. Scruff, un célèbre,
célèbre
Ninja Tunes.
Ah oui, voilà, c'est voilà. Ça.
je m'y retrouve un peu dans tout ça. En fait, c'est les remixes avec le Moondog, qui est quand même une grande vedette de la musique américaine.
Contemporaine.
Qui est très étrange, mais bon, enfin, surtout que très souvent, il fait boum, 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 boum. C'est lui qui faisait boum,
oui,
boum,
oui,
boum
oui, derrière. Ah, c'est ça, j'imagine bien, voilà. Oui. Mais donc, bon, là, il nous en reste trop. Peut-être que la semaine prochaine, si on n'a pas d'idée, on continue par Ipeux.
Hein? Non, ne dis pas si on n'a pas d'idée, on n'a qu'à refaire ça et puis on n'en parle plus, quoi.
Je sais pas, oui, mais on change tellement d'avis entre les deux,
c'est
il
vrai.
Peut s'en passer tellement de choses que, mais non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un matériel assez énorme, finalement.
Oui,
et tu l'as retrouvé en plus.
On serait vachement plus court sur Toulouse, quoi, c'est ce que tu veux dire.
Ben
oui, ça, oui, c'est sûr. Oui.
Parce que là, maintenant, je peux passer au label, aux lieux, aux endroits, oui, mais... à tout.
Il y avait même quelque chose de relativement simple à faire, c'était tous les lives de Paris. Quoi.
Oui, non, évidemment, enregistré à Paris. Quoi, tu vois, donc là, on a échappé à plein de choses. Là, donc on peut continuer. On ne vous le promet pas, mais oui. Allez, pour le moment, on se quitte là-dessus.
C'est rare qu'on fasse un
deux
et deux.
Oui, Paris 2.
Paris 2.
Il y a Paris 2. Il y a Paris 2.
Oui, parce que j'ai pas passé mon
Mazarin
de Connors, quand même.
Et à mon avis, tu vas en trouver d'autres.
Surtout qu'il dure 22 minutes, le morceau, si je voulais, hein, quand même.
Ah, oui.
Parce que tu m'as coupé le morceau de Agostino Discipio, mais qui durait quand même 25 minutes.
Je veux dire. Oui, évidemment.
Bien entendu, moi j'amène toujours des morceaux longs, mais on les passe jamais en entier.
Et non. Mais attends, ça m'est venu sur une idée, en plus, parce que j'ai écouté ce thème sur soit un pays, soit d'Amérique. J'ai réécouté Amérique, tu sais, avec de Edgar Varèse, quoi. Mmh. Mais c'est absolument... Mais c'est la notion de ville aussi, quoi. Enfin, des États-Unis, qui est complètement dans la composition, et ça m'a fait penser à Paris aussi, exactement de la
et
même
on aurait
manière,
pu passer
quoi.
Aussi Ray Cooder, Paris-Texas, après tout, c'était Paris, Paris, c'est toujours Paris, quoi.
Oui, attends, bon. Et alors, j'osais pas te demander, est-ce qu'il y a eu des remixes avec du Maurice Chevalier, quoi, par exemple. Parce que alors là, on est dans un petit peu, on va dire, ironique, peut-être, voire polémique, mais enfin, bon.
Non, j'ai pas trouvé.
Oui, mais attends, peut-être tant mieux, la limite, parce que j'ai peut-être pas envie de le réécouter, ça fait penser à des histoires... Ouais.
On pouvait écouter peut-être Juliette Gréco...
Enfin, ah, ça, c'est autre chose, oui, bien sûr, Saint-Germain, etc. Oui.
Ou même des sous les
Boris
ponts de Paris...
Boris Vian, du Boris Vian, etc., oui, ça, on peut le trouver.
Mais non, on s'en...
Non, on l'oubliera d'ici la semaine prochaine, peut-être, il y a des chances.
Et on reste avec Canal Sud 92.2...